Louez le Seigneur. Cette conférence a été pour moi j'ai le sentiment que le Seigneur renverse complètement ma vie par cette conférence, parce que être perfectionné dans la crainte de Dieu pour la sainteté, ça touche vraiment l'essence même de ma vie, parce que ça montre vraiment tout ce que le Seigneur doit sanctifier en moi. Je me souviens la première fois qu'on est revenu des Philippines après que la parole ait été partagée. Je suis sortie de l'avion. Sharon et les filles étaient là pour me chercher. Et puis directement, j'ai dit des choses qui me correspondaient, me plaindre, voir tout le travail qu'il allait me rester à faire. Mais dans ce voyage, quand je suis revenue à la maison, j'ai réalisé, ouf non, là le Seigneur touche ma langue. Il me dit, est-ce que tu vas vraiment dire les choses d'une manière si naturelle ou bien est-ce que tu vas être saint? Depuis la sortie de l'avion, directement, le Seigneur me parlait. La sainteté, c'est d'être séparé pour le Seigneur, de réaliser, Seigneur, est-ce que c'est séparé, est-ce que c'est saint pour toi? Et le Seigneur fait une œuvre magnifique en nous, parce que c'est ça, les derniers pas. Pour devenir des rois et des sacrificateurs, on doit être saint, parce que Dieu est saint. On a été puissamment encouragé par la communion, parce qu'on peut tous le faire. C'est magnifique. Tous ces versets qui ont été lus, on peut vraiment le faire. Parce que c'est dans le cœur du Père. Depuis le début, depuis la fondation du monde, depuis avant la fondation du monde, il voulait qu'on soit saint et sans défaut. Donc depuis, c'est dans le cœur du Père qu'on atteigne ce but. Et il va nous aider. Il va nous donner toutes les ressources nécessaires. Il va nous encourager. Il va nous ajuster dans tant de choses positives. Et hier soir, juste de voir qu'est le Saint d'Israël, je crois qu'on sait à ce point que beaucoup de choses sont déjà faites. Mais est-ce qu'on réalise que c'était saint? La manière dont ça a été accompli était sainte. Et pour moi, c'est vraiment un nouvel éclairage de voir son humanité, de voir comment il a accompli les choses de manière sainte. Et celui qui est saint, il vit en moi. Il vit en nous. Et il a vraiment pourvu à tout ce dont on a besoin pour atteindre le but. Et ce matin, pendant que Georges parlait, ça m'a vraiment parlé qu'on doit collaborer, on doit poursuivre. Et tous ces points-là dans Romains 3, quand on voit ce qui a été couvert sur les partages, on voit que ce n'est pas juste notre âme ou notre esprit, mais c'est vraiment tout notre être qui doit être sanctifié. Et là où il a passé le plus de temps, c'est par rapport à la collaboration des saints avec le Seigneur. C'est vraiment nos pensées, notre langue, notre corps physique, notre être entier. On est passé au travers de beaucoup de points dans le fait de poursuivre la sainteté. On encourage vraiment tous les saints à entrer là-dedans. On a besoin de pratiquer. On doit exercer quotidiennement. Parce que c'est une question de poursuivre. Au début de la conférence, on parlait de comment ça nécessite beaucoup d'exercice, garder cela devant les yeux pour atteindre le but. C'est la même chose aujourd'hui pour nous. Si on veut atteindre la sainteté, on doit collaborer. Mais pas seulement. C'est pas juste qu'on doit collaborer de notre côté, mais ça nécessite aussi notre obéissance. Et un des points que j'aimerais lire, je sais que les frères vont dire que je suis un peu répétitif parfois, mais un point par lequel le Seigneur m'a beaucoup parlé, pas juste dans le passé, mais il me parle encore, c'est le fait d'être de vouloir prendre le châtiment du Seigneur. Dans Hébreux 12, depuis le verset 5, Hébreux 12, versets 5 à 12. Lisons-le tous ensemble. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Pour être un bon footballeur, tu dois t'entraîner. Mais l'entraînement sans les instructions et la correction ne va pas t'amener à devenir un bon footballeur. Si tu n'écoutes pas ton entraîneur, tu ne le laisses pas te corriger et tu te défends constamment. Est-ce que tu crois que tu vas pouvoir être perfectionné en tant que joueur? Non. C'est ce qu'on a partagé par le passé quand on parlait de cela. Mais là, il est question de plus que d'être des footballeurs. Il est question vraiment d'atteindre le but, d'être changé à l'image de notre Père. Et notre Père nous donne toutes les magnifiques ressources nécessaires pour pouvoir atteindre le but. Mais ça nécessite son châtiment, sa correction pour que nous atteignions le but. Et quand il le fait, il le fait pas juste pour nous montrer « Regarde tout ce que tu fais faux ». Non, il le fait parce qu'il nous aime. Et plus que tout, il veut nous amener jusqu'au but. C'est comme ça qu'il parle à ses enfants. Parfois, comme enfants, on est concentré sur le fait que oh, les parents sont tout le temps en train de pinailler. Non, quand j'agis ainsi avec mes filles, c'est pas juste pour pointer toutes les choses qui ne vont pas, mais ce que j'essaye de leur dire, c'est pour qu'elles deviennent des meilleures personnes d'une perspective humaine, mais encore plus qu'elles apprennent à venir au Seigneur et qu'elles viennent au Seigneur, afin que le Seigneur puisse aussi les perfectionner. Parce qu'à la fin, le Seigneur doit les perfectionner, afin qu'elles puissent atteindre le but. Donc, ce châtiment, il est par amour. Problème de micro. Le frère a partagé déjà un peu au sujet de la correction de la part des parents. C'était bon. Une des questions qui m'a été posée, c'est oui, mais si on a la vie du Seigneur en nous, est-ce que ce n'est pas suffisant de juste croire dans cette vie et qu'il va tout faire en nous? Souvent, on m'a dit ça. Ah, mais John, ne dis pas tellement ça. La vie va le faire. La vie en eux va le faire. Dis-moi, avec tes enfants. Stéphane, si tu ne corriges pas tes enfants, si tu n'expliques pas à tes enfants comment nettoyer à la maison, est-ce que vraiment... parce que toi, tu es propre et parce que la nature humaine en soi saurait comment nettoyer. Est-ce qu'ils vont apprendre spontanément comment nettoyer? Ils ont la même vie que toi. Hein? En plus, une vie suisse, t'imagines? Ils savent tout nettoyer. Ils nettoient même sur le dessus des portes, la tranche des portes. Les enfants savent ça, déjà. Mais ils ont besoin d'instruction. Ils ont besoin de correction. C'est le cas avec notre vie chrétienne. On doit aussi chercher cela dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. On ne peut pas juste se dire « Ah, la vie va le faire en moi ». Si je ne dis pas à BJ qu'on doit chercher la sainteté, je ne lui explique pas comment, est-ce qu'il sait spontanément comment chercher la sainteté? Il a le Seigneur en lui. Il a la Bible. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? J'ai besoin d'instructions. Et les instructions, elles viennent du Père. Mais c'est pourquoi on doit être châtié par notre Père. On doit être corrigé par notre Père. On sait qu'il doit nous corriger. Le but n'est pas juste de nous exposer. Le Seigneur me parle vraiment que ce n'est pas juste que je dois être discipliné, mais c'est pour que j'obéisse. Pour que je prenne la parole, que je la reçoive, que je la prenne devant le Seigneur et que je dise, « Ok, ça Seigneur, c'est trop court en moi. C'est imparfait en moi. Tu dois le changer. » Quelle est l'attitude aujourd'hui du monde? On peut aller voir dans 2 Timothée. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, les 5 premiers versets. Sache que dans les derniers temps, il y aura les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand j'étais jeune, j'ai mémorisé ce passage. Quand j'étais gymnasien, lycéen, pardon. Je me disais, est-ce que vraiment ça va être comme ça? Et quand on lit ce passage, on voit vraiment que c'est la culture du monde aujourd'hui. Et les générations nouvelles, c'est vraiment la constitution de leur caractère. Même les parents n'ont même plus le droit de dire non à leurs enfants. Quand avec les filles, j'entraînais à la natation, je voyais même des jeunes enfants qui étaient rebelles à leurs parents. Désobéissants aux parents, au point que les parents ne pouvaient même plus les maîtriser. Et dans la dernière administration du président, il a demandé que la discipline en classe soit plus relâchée, ce qui signifie que même les enseignants ne peuvent plus appliquer une discipline qui permette la compréhension, la concentration de tout le monde. C'est compliqué quand tout le monde parle en même temps, mais l'enseignant n'a même plus le contrôle sur ses étudiants. Dans les universités, j'entends par mes filles, tu passes du temps dans le cours et tu fais une présentation, et quand l'enseignant te corrige, eh ben, les étudiants ne le prennent plus pour pouvoir apprendre, mais ils corrigent eux-mêmes le professeur en se justifiant. Alors qu'en fait, le professeur fait ça pour leur apprendre. Mais ils ont une attitude qui dit « Non, tu sais pas de quoi... » Tu sais pas de quoi tu parles. Ensuite, une fois qu'ils finissent l'université et qu'ils commencent à travailler, j'ai parlé avec des professionnels qui travaillent. J'ai parlé avec un chef des pompiers, un chef de la police, qui m'a dit, il n'y a pas tellement de jeunes qui arrivent à arriver jusqu'au bout de ses études, parce que la première chose qui les fait échouer, c'est le refus d'être sous une autorité. Quand le chef va dire, là, il y a une... le pompier à qui il est dit va voir dans ce bâtiment, il y a un incendie, va voir s'il reste quelqu'un, puis il dit non, je vais pas faire ça. Mais ça, c'est vraiment des exemples que j'ai entendus de mes propres oreilles. Et parmi à l'armée, seulement un faible pourcentage arrive jusqu'au bout des camps, des entraînements. Et la première cause, c'est parce qu'ils ne veulent pas être sous une autorité. La deuxième raison pour laquelle ils arrêtent, c'est qu'ils veulent, ils trouvent qu'il y a trop de pression. Et Mo a raison. Les managers qui des ressources humaines, quand Maintenant, quant aux ressources humaines, ils font un commentaire à un employé. Si ça lui plaît pas, il le dit à ses parents et les parents vont téléphoner aux ressources humaines pour se plaindre. Quand le responsable fait une remarque à l'employé, ça c'est vraiment la nature humaine actuelle, cette désobéissance. Si on est désobéissant d'une telle manière, alors à la fin, c'est normal qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Parce que même le Seigneur auquel on a tellement obéi, qui a tellement fait pour nous, on ne va pas vouloir lui obéir. Ça, c'est la véritable condition de la société actuelle. La question, c'est est-ce qu'on est volontaire pour recevoir cela de notre Père céleste? Et pour moi, c'est vraiment précieux aujourd'hui qu'on ait ce désir plus que tout de connaître le Saint d'Israël, d'apprendre cette obéissance. Dans Philippiens 2, verset 8, il s'est en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. C'est à cheval entre 7 et 8. C'est pas venu automatiquement. Il a appris depuis enfant l'obéissance. Ça me rappelle si souvent Luc 2, à 12 ans. Vous rappelez ce qui est arrivé quand il avait 12 ans? Jésus et sa famille sont allés à Jérusalem pour la fête. Et au retour, qu'est-ce qui manquait? Est-ce que Jésus est retourné avec sa famille? Non, il manquait. Parce qu'il était encore dans le temple. Il faisait rien de mal en soi. Il faisait la volonté du Père. Les parents savaient pas ce qu'il était en train de faire. Et puis là, ils ont dû retourner et il a fallu plusieurs jours pour qu'ils le trouvent. Et ils lui ont même demandé, qu'est-ce que tu faisais? Et là, il leur a dit, vous savez pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faisait quelque chose de très bien. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a juste dit, ah bon, c'est votre problème. Moi, je m'occupe des affaires de mon père. Non. Mais il s'est soumis à ses parents pour rentrer avec ses parents. C'est juste un exemple de comment le Seigneur a appris l'obéissance et de sa vie qui est en nous. Et si on n'apprend pas à être soumis à nos parents, à être soumis au Père céleste, même trois fois au moment d'aller à la croix, il a demandé au Père, est-ce que tu peux pas retirer cette coupe? Trois fois il a demandé, est-ce que tu peux pas retirer cette coupe? Mais il a obéi au Père et il a accompli son œuvre. On veut une telle obéissance en nous. Et dans Hébreux 5, 8 et 9, je vous le lis, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Est-ce qu'on est volontaire pour obéir? ça va nous amener à obéir au Père. Et une telle personne habite en nous. Et j'aime aussi beaucoup l'exemple de Pierre, qui a été corrigé par le Seigneur. Tu peux dire, oui, mais bon, Jésus est Dieu de toute façon, donc il est obéissant au Père.
Ok.
Le Seigneur a aussi dû travailler dans ses disciples. Et on a Pierre. On se souvient tous de Matthieu 16. C'est quand Pierre dit, « Ah, oh, tu es le Fils de Dieu. » Et là, il a eu la révélation de l'Église. Mais là, le Seigneur lui révèle qu'il va aller à la croix. Et qu'est-ce que dit Pierre? Non, Seigneur, ne fais pas ça. C'est une bonne idée. C'est une bonne réponse naturelle. Non, Seigneur, ne va pas souffrir. Mais quelle est la réponse du Seigneur? Est-ce que le Seigneur lui a dit, « Oh, tu sais, Pierre, ça va aller. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. » Est-ce que ça a été la réponse du Seigneur? Non, il dit, « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. » Si tu fais quelque chose de faux, est-ce que si tu dis quelque chose à quelqu'un et cette personne te dit « Arrière de moi, Satan !» Il va se dire que je ne suis pas dans l'esprit. Si quelqu'un lui dit ça, le frère va se dire « Oula, j'étais pas en esprit. » Mais dans notre être naturel, on va plutôt nous dire « Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il m'appelle Satan ?» Ça, c'est notre réponse naturelle. Comment Pierre a répondu? On ne sait pas comment il a répondu, on n'a pas la suite. Mais je pense qu'il a obéi ensuite. Quand il a entendu ça, il n'a pas dit « Oh, bon, il y a trop de pression, je m'en vais. » Non, il n'a pas fait ça. Parce que 6 jours plus tard, sur la montagne de la Transfiguration, une autre situation, de nouveau, il a une bonne idée. « Ah, Seigneur, faisons 3 tentes. » Juste 6 jours plus tard. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est corrigé de nouveau, mais cette fois-ci par le Père. Bon, je pensais que Pierre a appris, mais là on arrive à Matthieu 26, et puis là le Seigneur est sur son chemin pour Jérusalem, et puis là Pierre sort son épée et coupe l'oreille de quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? De nouveau, le Seigneur corrige. Je crois que si j'étais Pierre à ce point-là, je dirais juste, « Oh, bon, bah, c'est bon, après 3 corrections, le Seigneur y arrivera jamais avec moi. » Non, de nouveau. Il continue. Même le Seigneur lui dit, « Tu vas me renier 3 fois. » Et Pierre l'a fait 3 fois. Et cette fois, le Seigneur n'a rien dit. Il l'a juste regardé. Et ça a vraiment fait fondre le cœur de Pierre. Il a vraiment... Il en a souffert. Souvent, ma femme n'a pas besoin de tellement me dire. Il suffit juste qu'elle me regarde. Et quand je vois ce regard, malheureusement, souvent, je ne réponds pas. Et elle va me dire, « John, t'as pas vu le regard que je t'ai lancé et t'as pas arrêté ?» Ça, c'est le nœud du problème en nous. De même que le Père veut nous discipliner, nous, on est contre cette discipline. Ne croyons pas que c'est juste le problème du monde, c'est le problème aussi dans l'Église. On a tous cette tendance. On a tous cette tendance. Et avec Pierre, proche de la fin de sa vie, Il rappelle même aux saints dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et 14, comme des enfants obéissants. Amen. Pourquoi il dit comme des enfants obéissants? Parce que Pierre s'est rappelé de Matthieu 18, quand le Seigneur le répond, à moins que vous soyez comme des enfants pour me connaître, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Pourquoi il nous dit d'être comme des petits-enfants? Nous savons que des petits-enfants, ils sont purs, ils sont honnêtes. C'est pas juste ça. Mais les enfants sont encore corrigeables, enseignables. Tu peux encore les enseigner et les corriger. Mais plus tu deviens âgé, un adulte, et plus ça devient compliqué de changer, de te corriger, de corriger un adulte. Mes deux filles sont finalement devenues des adultes officiellement, 21 ans. Est-ce que c'est devenu plus compliqué de les corriger? Ça dépend. Obéissant. Les enfants sont encore corrigeables. Est-ce qu'on peut encore être entraîné? Est-ce qu'on est comme des enfants, prêts à être disciplinés, spécifiquement par rapport à la sainteté? Dans ce passage de 1 Pierre 1, dit aussi, verset 17, « Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Il ne dit pas « conduisez-vous avec amour » ou avec amour et crainte, mais avec crainte. Et c'est une crainte divine. Dans Colossiens 2, versets 12 et 13, c'est pas ça. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le Père nous corrige. Mais si on prend cela pour obéir au Père, on voit ce que le Père fait pour notre bonté. Et on voit aussi dans 2 Corinthiens 7, 1, il va perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu en nous. Si tu sais que ton Père t'aime, mais si tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu crains ton Père? Est-ce que ça te fait douter qu'il t'aime? Non. Mais parce que tu l'aimes, en fait, tu crains ton Père. Tu crains de lui déplaire. Si tu n'aimais pas ton Père, est-ce que tu le craindrais? Non. Ça va ensemble. L'amour et la crainte. Il dit, obéissez à la vérité. Pierre continue au chapitre 2. Dans 1 Pierre 2, verset 13. Là, Pierre parle d'être, d'avoir une bonne conduite il dit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité parmi les hommes, soit au roi, soit souverain. Soit au gouverneur, comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et il continue. Verset 17. Craignez Dieu, honorez le roi. 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Est-ce que Pierre dit « Soyez soumis seulement aux bons et doux maîtres » Non, est-ce qu'il dit ça? Pas du tout. Aujourd'hui, tu dois être bon et gentil. Si tu n'as pas un bon et gentil responsable, tu changes. Parce que tu dis « Oh non, il y a trop de pression » et tu pars. Mais là, Pierre nous dit d'être aussi soumis à ceux qui sont d'un caractère difficile. Parce que si tu n'es pas volontaire pour te soumettre à ton responsable humain, est-ce que tu crois que tu vas réussir à te soumettre à Dieu? Parce qu'à la fin, c'est une question de volonté, de se soumettre à notre berger. Là, le Seigneur m'a vraiment parlé beaucoup par ces passages. Quand j'étais plus jeune, j'apprenais tout ce qui était audio et vidéo. Et j'ai fait... Je l'ai fait dans la vie de l'église. Et le frère qui nous supervisait l'a fait d'une manière très humaine. Et il faisait que nous hurler dessus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme aussi, je vais dire, oh, il est dans la chair. Non. Mon attitude, c'était, d'accord, Seigneur, je suis là pour apprendre pour toi. Et même si le frère me parlait d'une manière tellement charnelle, je le prenais de la part du Seigneur. Ok, Seigneur, je ne veux pas faire juste la moitié du travail, je veux bien faire les choses et change le caractère en moi. Et quand je travaillais dans mon travail, j'ai eu de la chance d'avoir plutôt des responsables bons et gentils, mais j'en ai eu un à New York, qui est un juif. Il était rude et très fort. Mais de nouveau, j'ai dit, Seigneur, je dois apprendre. Et de tous les responsables que j'ai eus, celui avec qui j'ai le plus appris, c'est de lui. J'ai appris à être corrigé. Et maintenant que je suis plus âgé, juste avant la réunion, j'ai été corrigée deux fois. Tu sais pas que je vais parler, tu viens me corriger deux fois. Non, je suis remerciée. Je suis reconnaissant pour la correction. Et j'espère que le Seigneur va continuer de nous corriger les uns par rapport aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. On n'est pas là pour se critiquer, pour c'est Éphésiens 5:21. On est tous là pour être changé. On est pour poursuivre la sainteté. Le dernier point, si on veut être ces prémices, dans Apocalypse 14, 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Comment on peut suivre l'agneau partout où il va si on ne lui obéit pas? Si on n'accepte pas le châtiment et la correction, comment on va suivre l'agneau partout où il va? Il emploie sa parole. Il emploie tous les saints pour nous faire atteindre le but. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, ils ne s'est point trouvé de mensonges car ils sont irréprochables. Que nous ayons tous vraiment le fardeau de suivre la sainteté dans la crainte de Dieu, pratiquement, en l'obéissance. Si nous obéissons à ces instructions, nous allons atteindre le but. J'ai vraiment le sentiment que pour la sainteté, le Seigneur me parle de manière si spécifique. Peut-être que apprenons vraiment à obéir dans toute la perfection de notre Père Saint. Après avoir entendu tant de paroles et de versets, on devrait vraiment garder une chose en tête: poursuivre la sainteté. Et pour poursuivre la sainteté, on doit collaborer. Si tu collabores pas, tu vas pas y arriver. C'est un encouragement, mais c'est aussi un avertissement. Toutes ces paroles où il dit de poursuivre, c'est vraiment un mot très fort qui est aussi utilisé pour dire attaquer. Est-ce que tu veux attaquer quelque chose? Tu utilises toute ta force. Donc, pour poursuivre la sainteté, d'un côté, Dieu a tout fait. Et de l'autre côté, on doit apprendre l'obéissance. Et tu ne finis jamais d'apprendre. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Commence quand tu es jeune. N'attends pas d'avoir mon âge pour commencer à apprendre. C'est trop dur. Une fois que tu as des cheveux blancs comme moi, c'est très difficile d'apprendre l'obéissance. Mais maintenant, c'est le moment pour chacun d'entre nous d'apprendre. Et on n'a pas juste les instructions dans tous ces versets, mais on a vraiment le Seigneur, on a sa nature, on a besoin de le voir. Pas juste la parole, mais on doit vraiment le voir, lui. Et on a tellement d'exemples dans la parole. Si tu n'as que les instructions sans les exemples, c'est compliqué. Les parents à la maison doivent être des exemples. Pas juste donner des instructions. Parce que les enfants apprennent plus par imitation. Et pas uniquement parce qu'on leur dit de faire. Poursuivons cela. Si nous faisons cela, nous allons l'atteindre. Personne ne dit que c'est simple. Rien n'est simple. Mais tout est normal. Ça, c'est normal. C'est le chemin normal dans notre vie. Ne crois pas que dans la vie de l'Église, tout va être magnifique. Non, ce ne sera pas le cas. À moins que tu n'aies aucun problème. Qui n'a aucun problème? Qui est parfait ici? Personne. Comment l'Église pourrait être sans problème? Mais ne fuis pas à cause des problèmes. Mais on apprend les uns des autres. Tout est bon. Les bonnes, les mauvaises expériences, les difficultés. Comme Paul dit, toutes les choses servent au bien de ceux qui servent Dieu, sont appelés selon son dessein. Que le Seigneur nous encourage chacun. Dans les bonnes situations, dans les moins bonnes situations, poursuivons la sainteté. Amen. Il ne nous reste plus tellement de temps, 4 ans, si le traité de paix est signé par et apporté par Trump. Mais croyons, les apôtres croyaient que le Seigneur allait revenir de leur temps. Et ça, c'est la bonne attitude. Si on a cette attitude, non, on ne parle pas du fait que le temps est court. Il va venir dans peu de temps. Ce n'est pas faux, surtout en vivant maintenant. Et quand on voit toutes les prophéties qui sont déjà accomplies, ce n'est pas faux de se dire qu'on a peu de temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas où je serai demain. Qui sait ce qui lui arrive demain? Dans une année, je peux ne plus être là et ne pas être prêt. Je préfère être prêt aujourd'hui, être prêt chaque jour. Aujourd'hui, chaque jour est une bonne opportunité d'être encouragé. On a des encouragements dans ces jours. Amen. C'est la vie spirituelle. On n'a pas le... Dans toute notre vie quotidienne, notre vie au travail, notre vie de famille, Dieu emploie chaque chose, chaque situation pour nous changer. Pas juste certaines situations, mais toutes. Même si tu es tout seul, tu peux apprendre. Chaque situation est une bonne opportunité de connaître Dieu.